Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Fanny Blechner.
Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile. Pour m'accompagner ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous.
À la une de l'actualité ce soir, les élections législatives anticipées en Irak. On attend de connaître les résultats, mais aussi le taux de participation, notamment concernant les jeunes électeurs qui s'étaient mobilisés il y a 2 ans lors des mouvements de contestation.
Au Pakistan, l'annonce aujourd'hui de la mort d'Abdul Kader Khan. Il était considéré comme le père de la bombe atomique dans le pays. Nous reviendrons sur son parcours dans cette édition.
Nous parlerons aussi des effets de la pandémie de Covid-19 sur la santé mentale. Selon une étude publiée dans The Lancet, les cas de dépression et d'anxiété ont augmenté de plus d'un quart dans le monde en 2020.
Et puis à la fin de cette édition, nous jetterons un œil sur le match de finale de Ligue des Nations. La France et l'Espagne s'affrontent en ce moment même.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
L'heure est désormais à l'attente en Irak à l'issue du scrutin.
Un scrutin pour les élections législatives anticipées. 25 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. La journée s'est déroulée sans violence, mais avec quelques problèmes techniques. Le vote était organisé 2 ans après les protestations massives de jeunes dans les rues qui réclamaient du changement, la fin de la corruption, des emplois, des services publics décents. Un mouvement largement réprimé. On attend encore de connaître le taux de participation, mais les jeunes issus de ce mouvement devaient largement le boycotter. Certains, cependant, se sont déplacés, comme Mustapha. Il a une 30aine d'années et croit à la réforme du système électoral pour encourager les candidats indépendants.
Il était nécessaire d'avoir ces élections pour obtenir un changement, pour voir émerger de nouvelles têtes indépendantes, loin des partis traditionnels, et qu'elles puissent répondre au moins à une partie des demandes de la population. Depuis 17 ans, les Irakiens n'ont pas eu de dirigeants capables de répondre à leurs aspirations. Il faudrait qu'une personne puisse changer les choses dans le domaine politique, sécuritaire et surtout, le plus important, dans le domaine économique. Bien sûr, je pense que la nouvelle loi électorale permettra à quiconque de qualifier, quel que soit son parcours, de diriger le pays. Il aura le droit d'être élu. Ça pourrait être une personne diplômée au plus haut niveau, une personne jeune. Nous espérons que les rêves de la société irakienne se concrétisent dans le futur système, pour que l'Irak de demain soit complètement différent de celui d'avant.
Témoignage recueilli à Bagdad par Muriel Paradon et Boris Vichit. Les résultats du vote devraient être connus demain.
Et puis des élections législatives en République tchèque aussi, c'était hier.
Mais le processus de désignation du gouvernement est pour l'instant en suspens. Et pour cause, aujourd'hui, le président Miloš Zeman a été hospitalisé à Prague en soins intensifs. Son médecin n'a pas révélé son diagnostic, mais la santé de Miloš Zeman est fragile depuis quelque temps. Plus tôt dans la journée, il avait rencontré son allié, le premier ministre milliardaire et populiste Andrej Babiš, défait hier, mais qui espère se maintenir au pouvoir. La question est maintenant de savoir qui d'Andrej Babiš, avec les 27,14% de son parti, ou de Petr Fiala, dont la coalition de centre-droit a remporté 27,78% des voix, serait choisi par le président pour diriger le prochain gouvernement.
Au Pakistan, il était considéré comme le père de la bombe atomique. Abdul Kader Khan est mort.
C'est la chaîne de télévision nationale pakistanaise qui l'a annoncé. Abdul Kader Khan avait 85 ans. Il était hospitalisé pour des problèmes pulmonaires après avoir contracté le Covid-19 en août. Ses admirateurs le considéraient comme un héros national car il a fait du pays la première puissance nucléaire islamique. Mais le scientifique nucléaire pakistanais est aussi accusé d'avoir diffusé illégalement des technologies vers l'Iran, la Corée du Nord et la Libye. Juliette Garbrand revient sur son parcours.
C'est en Europe qu'Abdul Kader Khan, ingénieur, physicien, fait ses études. Dans un laboratoire anglo-néerlandais qui fabrique des centrifugeuses, filiale du groupe Urenco, producteur d'uranium enrichi, le jeune et brillant Pakistanais a accès à des documents confidentiels qu'il ramène avec lui à Islamabad. Il fait du Pakistan le premier pays islamique détenteur de la bombe atomique en lui permettant d'enrichir l'uranium à un taux de concentration permettant de fabriquer des armes. Mais Qadir Khan est aussi considéré comme le père de la prolifération nucléaire. Très vite, à son retour au Pakistan, il met en place un vaste réseau d'approvisionnement et de vente de matériel sensible et il fournit ainsi l'Irak, l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord et la Libye en moyens nucléaires. Il opère notamment grâce à des sociétés écrans depuis Dubaï mais aussi la Malaisie. Le réseau s'étend jusqu'en Europe. Ses activités déclenchent la fureur des États-Unis et en 2004, il est contraint de reconnaître sa participation au trafic et il est placé en résidence surveillée. En 2009, la sanction avait été allégée, mais il est resté sous surveillance jusqu'à la fin de ses jours, sans qu'aucune ombre n'entache son immense popularité dans le pays.
Juliette Gerbrand du service international de RFI.
Et puis au Liban, ça y est, l'électricité est de retour.
Après une coupure totale d'une journée, le courant a été partiellement rétabli ce dimanche. Les deux centrales électriques à l'arrêt, à Deir Ahmar et Zahrani, ont pu recevoir une aide de l'armée de 6000 kilolitres de gazole.
Dans la journée de ce dimanche, Fanny, ce sont aussi ces multiples manifestations autour du monde, en Tunisie d'abord.
Au moins 6000 personnes sont descendues dans les rues de Tunis pour dire leur opposition au président Kais Saied, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier. Elle parle de coup d'État. Le week-end dernier a été marqué par une manifestation rassemblant 10 000 manifestants pro-Saïed.
Une manifestation aussi en Pologne.
Pour défendre l'appartenance du pays à l'Union européenne, après une décision vendredi de la Cour constitutionnelle polonaise, contestant la primauté du droit européen. Des dizaines de milliers de Polonais craignant un polexit sont descendus dans les rues aujourd'hui de Varsovie et de plusieurs villes du pays. L'appel à la manifestation avait été lancé par le chef de l'opposition et ancien président du Conseil européen, Donald Tusk.
Mobilisation de taille également à Bruxelles, en Belgique, avec plusieurs dizaines de milliers de manifestants.
Une marche pour le climat, quelques semaines du sommet international de la COP26. C'était la première grande manifestation de ce genre depuis le début de l'épidémie de coronavirus.
Le Covid-19, on en parle aussi dans une nouvelle étude publiée par la revue médicale The Lancet.
Il y est question des effets de la pandémie sur la santé mentale de nombreuses personnes à travers le monde, Valérie Cohen.
Selon l'étude du Lancet, les troubles dépressifs majeurs ont bondi de près de 30% en 2020 dans le monde en raison de la pandémie. Cela représente 53 millions de cas supplémentaires. Les troubles anxieux, quant à eux, se sont accrus de plus de 25% l'an dernier. Les femmes ont été touchées de manière disproportionnée. La différence de prévalence entre femmes et hommes qui existait avant la pandémie s'est creusée. Parmi les raisons avancées, une situation des femmes en termes d'emploi et de revenus moins favorable que celle des hommes, ce qui les a rendues plus vulnérables aux conséquences économique de la pandémie. Par ailleurs, les mesures de confinement, etc., ont engendré une augmentation des violences conjugales. Les jeunes ont aussi particulièrement souffert, écoles et universités fermées, parfois longtemps, interactions sociales réduites et des perspectives d'emploi qui se sont assombries en 2020. Au vu des résultats de l'étude, les auteurs appellent à l'action. Certes, même avant la pandémie, les systèmes de soins en santé mentale dans la plupart des pays manquaient de ressources, souligne-t-il, mais ne rien faire face à cette augmentation des troubles dépressifs et anxieux ne doit pas être une option. Telle est leur conclusion.
Valérie Cohen.
Il n'y a pas de quoi déprimer. En revanche, à Milan, en Italie.
Où la France affronte en ce moment même l'Espagne. Match de finale de la Ligue des Nations. Antoine Grenier, on a dépassé l'heure de jeu pour un match donc assez indécis.
Et qui vient à l'instant de se débloquer un tout petit peu, Fanny, avec l'ouverture du score espagnol de Mikel Oyarzabal sur une contre-attaque espagnole. Il s'emmène bien le ballon. L'attaquant espagnol qui évolue à la Real Sociedad, il croise parfaitement sa frappe du gauche pour battre Hugo Lloris sur sa gauche. 1-0 dans un match qui jusqu'ici était extrêmement serré, tendu, vous le disiez. Les Français, juste avant d'encaisser d'ailleurs ce but d'Oyarzabal, ont eu une énorme occasion, une occasion de Théo Hernandez, l'homme qui avait libéré l'équipe de France en demi-finale contre la Belgique et qui cette fois touche la barre transversale sur une passe de Karim Benzema. C'était d'ailleurs une des rares occasions françaises dans cette deuxième mi-temps de cette finale de Ligue des Nations, parce que les Bleus ne voient pas énormément le ballon, la possession est quasiment intégralement espagnole, et les Bleus qui ont donc logiquement encaissé ce premier but de la rencontre et se retrouvent menés comme ils avaient été menés en demi-finale par la Belgique. Auront-ils la même réaction, l'équipe de France? Il leur reste 25 minutes pour changer la situation et l'égalisation à l'instant. Égalisation de l'équipe de France, un partout dans cette finale de Ligue des Nations.
Merci Antoine Grenier.
Demain sur RFI.